Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Mesdames, mesdemoiselles, mesdemoiselles, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce 8e épisode de la 2e saison de Focus Store, le bras radiophonique armé du magazine Focus Vif. Toutes les deux semaines, on s'empare des hypes et des gros morceaux culturels du moment. On leur tresse des lauriers ou on leur taille un costard. Chacun depuis son expertise et chacun depuis sa musculation de cerveau de professionnel de la critique. Aujourd'hui, pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir notre grand Manitou, le rédacteur en chef de Focus, Laurent Raphaël. Bonjour.
Bonjour à tous.
Il y a aussi le petit Manitou, le chef des pages musique, Laurent Houbrecq. Salut Laurent.
Salut.
Et enfin, le mani rien du tout. Je suis assez fier de celle-là. Kiefer Stratton, chef de rien, mais roi de tout.
Oh, bonjour Myriam.
Au menu ce vendredi, il y a le film American Hustle, le disque de Florent Marchais, le livre En finir avec Eddie Bellegueule et la série The Americans. On y va ? C'est parti ?
C'est parti.
C'est parti.
I want to show you something. This Rembrandt here. People come from all over the world to see this.
Yeah, he's good, yeah.
It's a fake.
What are you talking about? It's impossible.
People believe what they want to believe. Because the guy who made this was so good that it's real to everybody. And who's the master? The painter or the forger?
American Hustle, American Bluff en bon français, c'est le film le plus nominé aux Oscars cette année avec Gravity. 10 statuettes potentielles dont celle du meilleur film, de la meilleure actrice pour Amy Adams, du meilleur acteur pour Christian Bale, des meilleurs second rôles pour Bradley Cooper et Jennifer Lawrence et du meilleur réalisateur pour David O. Russell. David O. Russell qui avait déjà commis un film ultra oscarisable l'an dernier, le très pénible Happiness Therapy qui avait quand même permis de distinguer Jennifer Lawrence. Bref, American Hustle, c'est quoi ? C'est un grand film d'arnaque, ou une grande arnaque ? Non, allez, un grand film d'arnaque très long, 2h18, où un couple d'escrocs découvert par le FBI monte une opération d'envergure avec lui pour faire couler des grosses légumes, comme on dit. C'est un machin très dense. Je dois bien vous avouer que j'ai souvent décroché et qu'au moment du rebondissement, au final, ça faisait déjà un moment que je comprenais plus rien, donc ça ne m'a absolument rien fait. Bref, ce film m'a laissé à quai, d'autant que j'ai jamais vraiment pu déterminer s'il jouait sur la parodie ou s'il était totalement premier degré. J'ai jamais vraiment saisi ses intentions, mais peut-être que toi, Laurent, tu vas pouvoir me dire ce que tu en as compris.
Bien, un petit peu partagé, savoir qu'au début, je trouvais ça assez laborieux, à part la première scène qui est assez comique, avec Christian Bale
qui recouvre ses cheveux.
Voilà, sa moumoute artisanale et qui travaille dur. Je trouvais que les débuts étaient un petit peu laborieux parce que les personnages, on survole un peu l'intrigue, on ne sait pas très bien où ça va. Mais petit à petit, quand même, quand l'arnaque se met en place, que les personnages commencent à perdre pied, ne maîtrisent plus du tout ce qui se passe, y compris du côté de la police, mm-hmm. que du côté des charlatans qui sont dans le stress aussi, je trouve que là, il y a un petit côté jubilatoire qui se met en place. Et pour répondre à ta question, je trouve qu'on est un pied dans le pastiche, un pied dans la parodie, en particulier les clins d'œil, les clins d'yeux à Scorsese mm-hmm. sont quand même assez récurrents, la bande-son rock, les ralentis, etc. Ces références aux affranchis sont assez claires et je pense assumées. Ici, c'est clairement un film d'acteur, parce que finalement l'intrigue est assez secondaire, l'arnaque... Elle est assez alambiquée, oui. Mais elle n'est pas non plus très intéressante. Mais c'est vraiment typiquement le genre de film qui met les acteurs en évidence. Et là, il y a une maîtrise, je pense, dans la conduite et dans la direction d'acteurs qui est assez bluffante. La métamorphose de Christian Bale qui a pris ici, à mon avis, 40 kilos.
Non, c'était une prothèse de ventre, c'est pas, il a pas vraiment...
Ouais, mais enfin, au niveau des joues et tout, il a quand même pas mal... et apparemment, enfin, il est quand même assez habitué, puisque entre ces films... que ce soit Dark Knight ou
Le Machiniste,
ouais. Et tout ça, il passe d'un extrême à l'autre. Mais même, je trouve que les actrices, par exemple Jennifer Lawrence, sont assez cocasses dans le rôle de pétasse blonde qui fait tout foirer mais qui est pas non plus la dernière des imbéciles. Donc je trouve que les personnages en tant que tels sont bien campés, bien balancés, avec un petit caméo de Niro qui est aussi quand même une allusion et un petit clin d'œil à Scorsese. Voilà, donc le gars brasse un peu tout cet univers là mais au final je trouve que ça reste quand même une belle reproduction, un film un peu à décor comme ça avec les personnages. Mais
d'ailleurs nommé dans la catégorie des meilleurs décors aux Oscars.
Ça, c'est pas étonnant. Et des meilleurs bigoudis sûrement pour Bradley Cooper, a priori.
Oui, qui cabotine encore un peu trop. Ouais, déjà dans Happiness Therapy, il était, je trouvais, assez de cette hystérie masculine qu'on retrouve un peu ici. Moi, qui m'agace un peu, quoi. Je trouve qu'il il tirait profit à se maîtriser un petit peu et à travailler plus dans la densité que dans le cabotinage.
Ouais, et en est-il capable, seulement capable? Est-ce qu'il a fait des bons films, enfin, ou en tout cas, des bons... est-ce qu'il a eu des rôles où vraiment il a pu démontrer que c'était une sorte de Matthew McConaughey après l'heure?
Il en est loin, là, pour le moment.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Il est un peu hystérique ici dans ce film, là, American Hustle, Bradley Cooper, je trouve. C'est vrai que ça déforce un peu le propos. Et vraiment, c'est un peu embêtant de savoir, justement, tu parlais d'un pied dedans, un pied dehors. C'est embêtant de te dire, bah, t'es vraiment jamais concerné, je trouve, par l'intrigue, parce que t'as toujours l'impression d'être dans un pastiche et dans une espèce d'hommage, d'hommage un peu rigolo, un peu cynique.
Un peu farce.
Il y a une farce où, voilà, complètement à Scorsese, de fait, avec des espèces de longs plans séquences et les choses. Enfin, qui sont tout à fait artificiels et voilà, moi je me suis assez vite désintéressé de l'intrigue.
Ouais, moi aussi.
Et ça fait un peu, je sais pas, pouf.
Ouais. Et quand tu t'intéresses pas à l'intrigue, après 2h18, t'en as vraiment marre, quoi.
Ouais, mais en revanche, là où je suis assez d'accord avec toi, c'est que, Laurent, c'est que je trouve que la deuxième partie est un peu mieux réussie que la première partie. Que ça commence à. Quand Christian
Bale. Ça part un peu en vrille, quoi.
Voilà, quand ça part un peu. Et de fait. Ouais, voilà, il se passe quelque chose, il y a quand même une intrigue et tout, mais c'est pas la plus grande intrigue d'arnaque qu'on ait vu récemment. Ça, clairement, c'est pas le truc le mieux ficelé, c'est pas le scénario le mieux tricoté que j'ai pu voir sur des films d'arnaque. Il y a des films, même des Ocean's Eleven, à la limite. Qui sont pas exactement des films d'arnaque, mais qui sont des films un peu intrigue dans le même type, sont au moins plus assumés dans le côté comédie. Et fonctionne mieux dans l'efficacité.
C'est ça, c'est un peu une succession de one-man show,
ouais.
de différents personnages. Plutôt, il manque un peu cette sauce qui permet de lier le tout. Et donc, ça, je trouve que voilà, c'est individuellement, c'est bien foutu. Il y a une espèce de concurrence entre eux pour savoir celui qui réussit la performance la plus incroyable. Mais au final, ça, je vois Laurent qui rigole.
Guy a l'air de se fâcher.
Non, pas du tout, je me fâche pas, je dis que c'est mal construit, c'est bizarrement construit, parce que tu passes d'un sixième du film au début où tu lances l'intrigue où personne peut. C'est impossible de comprendre quoi que ce soit forcément au début, puisque ils te lancent dans les hostilités comme ça. Ensuite, ils reviennent avec un espèce de flashback qui est un peu mi-figue mi-raisin, puis ils retournent à l'intrigue. Enfin, je veux dire, c'est mal foutu, même dans la construction même du scénario, j'ai l'impression. Et voilà, c'est un peu frustrant de voir qu'il y a quand même.
Individuellement, je trouve. C'est là que je sauverais quand même un peu le film, c'est que les prestations des uns des autres,
sauf de Bradley Cooper,
mais tous les autres sont
et de Louis C.K.
Je veux dire qui est quand même parmi les gens que je préfère sur cette planète et qui n'est pas totalement convaincant quand même dans ce rôle.
Mais Jeremy Renner en mère d'origine italienne, il est vraiment bien.
Il est très bien.
Une belle petite teinture.
Oui, oui.
Mais je vous enjoins néanmoins à regarder tout ce que Louis C.K. fait d'autre dans sa carrière.
Ce sera fait. Et mention spéciale à la garde-robe d'Amy Adams, hein, qui n'a jamais froid, en fait.
Ah ouais, tout à fait. Elle avait... Non, les soutiens n'étaient manifestement pas disponibles sur le tournage.
Et elle met des robes d'Anne von Fürstenberg qui lui vont très 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 bien.
Oh non.
Oui, écoute, voilà, j'ai changé, je suis devenue... Je connais les créateurs.
Un peu Kidman sous LSD, comme ça, dans ce film.
Oui, oui, vraiment. Mais Kidman avait une période Tom Cruise, quoi.
Et voilà.
Ouais. Moi, je lui mets 5 sur 10, parce que... Bah, non, Laurent, tu ne l'as pas vu, hein, c'est ça, donc je ne skip pas ton... Tu as l'air fort amusé par ce qu'on raconte.
Donc je me disais qu'à chaque fois, il devait y avoir une séquence tour de poitrine dans le...
Ah, mais c'est important, hein.
Ouais, tout
mais
à
c'est
fait.
Pour réveiller les gens qui nous écoutent.
Là, je peux te dire qu'elle le cherche, hein, parce que vraiment, elle est tout le temps seins nus.
Oui.
Il y a juste ses robes qui dépassent un tout petit peu.
Oui, un tout petit peu.
Le décolleté, des singes qu'au nombril.
Ouais, c'est...
Oh, c'est pas vilain,
c'est spectaculaire. Ouais.
Voilà, 5 sur 10 pour moi. Pour toi,
ouais, 6.
Allez, Laurent.
Oui, moi je pousse jusqu'à 7 pour la prestation d'ensemble des acteurs.
Bon, bah, c'était American Hustle, que vous trouverez peut-être à l'affiche dans votre cinéma, sous le nom d'American Bluff, et qui sera probablement oscarisé. En tout
une
cas,
excellente traduction encore. Hein. Une
ah
plus.
Oui, oh là là, qu'est-ce qu'on a de la chance.
Mal fichu, un ado chevelu, en sortant du bahut, je manquais de tenue. Où étais-tu quand j'étais abattu, né de père inconnu, je cherchais des tribus dans un monde exigu. Où étais-tu?
On poursuit avec un disque, celui de Florent Marchais, Bambi Galaxy, un album très remarqué. Il fait d'ailleurs la couverture des Un Rock, hein, pour faire de la pub à ce magazine pour lequel nous ne travaillons pas. Ce qui est quand même une belle consécration quand on se souvient que Marchais avait justement été remarqué lors d'un concours des 10 Un Rock il y a une dizaine d'années. Le chanteur français explore ici l'espace et tout son champ sémantique dans un trip halluciné où il imagine une sorte de chaos sur Terre. Il se la jouerait trop futuriste, en n'oubliant pas de semer, ça et là, son disque de nappe électronique et de référence provinciale qui joue hein, sur le fameux adage « Uncool is the new cool ». On y retrouve même quelques souchonneries. Hein. Tout cela est très à propos, très tendance dans l'époque, ça correspond parfaitement à la petite bible des hipsters, même la pochette hein, sur un plan graphique avec un ciel Instagram et une superposition de formes géométriques. Bref, ça sent très fort la pose et le vintage factice. Je déteste profondément cet album. Qu'en as-tu pensé, Laurent Houbrecht, toi qui diriges l'impressionnant service de nos pages musiques
toi qui diriges les 18 employés.
On a bien eu besoin, finalement, d'être au moins 3 pour se faire une idée sur le disque. Mm-hmm. Et on a 3 avis différents, à mon avis.
Ah
oui ? Oui, quasi. Mais c'est typiquement le genre de disque qui offre... Ils ont plusieurs degrés de lecture, mm-hmm. et donc selon le degré de lecture auquel tu veux bien l'écouter, tu auras forcément un avis différent. Moi, j'avoue que je me suis finalement assez bien plu, passé un peu tout le gloubi goulou goulba, cosmo futuristico sectaire comme ça,
Raëlien.
Où on convoque Raël et tout ce délire un petit peu. Passer ça, et le côté farce du truc, je trouve que le discours du disque a le mérite d'être comment dire, intéressant, on va dire.
Ah,
il y a un peu d'épaisseur, malgré tout. Mmh. Il y a un peu de gaudriole aussi, donc c'est ça qui fait qu'on ne sait pas toujours très bien comment le prendre. Je trouve que pour ça, la deuxième partie est un peu plus réussie du disque, parce que peut-être parce qu'il est plus... il va jusqu'au bout de son délire et que du coup il a l'air plus sincère, tandis que la première partie peut-être a l'air plus factice et du coup bah oui, ça sent la pause comme tu mm-hmm. disais. Après voilà, je trouve qu'on peut pas reprocher à un moment par exemple à Sébastien Tellier d'être allé trop loin avec son Pépito bleu et ses délires un petit peu complètement.
Mais je ne sais pas pourquoi Sébastien Tellier m'est violemment sympathique tandis que Florent Marchais m'est violemment antipathique.
Ah pourtant je trouve que c'est un peu la même démarche.
Écoute, je l'entendais.
C'est un peu un croisement entre Dominica et Sébastien Tellier.
Mais comment peux-tu dire ça? Non, jamais. J'entendais Florent Marchais sur France Inter l'autre jour qui disait quand ça n'allait pas dans la vie, il se réfugiait dans l'architecture. Ouais. Il se réfugiait dans l'architecture. Tu l'as entendu aussi.
Oui, mais tu
t'énerves vite, hein, toi.
Oui,
t'es vite fâché sur les gens.
Il y a des soulèvements comme ça.
Oui. Non, non,
alors
mais
qu'il faut
ça.
Se réfugier dans la télé-réalité.
Exactement.
Évidemment.
Ou dans la drogue.
C'est un disque assez intellectuellement séduisant par la démarche. Oser parler de la philosophie des sciences dans un album pop, c'est quand même assez audacieux. Mais émotionnellement. Ça reste assez froid, je trouve, et l'emballage PS Pop comme ça ne fonctionne qu'à moitié, et un côté vite agaçant,
ouais.
Je trouve.
Oui, moi j'étais... Voilà, ça m'a fortement irrité, en fait. Toi, Guy, pas...
Non.
Non.
Moi, je trouve que cet album, il est intéressant. Voilà, je l'ai écouté plusieurs fois. C'est vrai qu'au début, tu peux te braquer sur certaines chansons qui sont... Le problème de ce genre de démarche, c'est que c'est un petit peu grandiloquent et ça a de l'ambition. Et comme souvent dans beaucoup de projets qui ont de l'ambition, tu peux rapidement passer du génial au ridicule. Et de ce fait, à certains moments, je pense que cet album est ridicule. Dans certaines parties, dans certaines chansons, parce qu'il y a personne. C'est comme s'il y avait personne qui lui avait regardé au-dessus de l'épaule en disant: là, Florent, peut-être que tu vas un petit peu trop loin dans tes textes. Ce serait peut-être pas si mal que
tu arrêtes de trébucher l'architecture. Ouais.
Que tu simplifies ou que tu fasses. Mais au-delà de ça, il y a une vraie écriture. C'est indéniable. Le type écrit des vrais textes avec. Ils sont pas toujours réussis, mais c'est quand même assez beau. Et moi, au niveau de la space pop dont tu parlais, parfois ça m'emballe vraiment. Je trouve qu'il y a des Heliopolis par exemple, ou même Alpha Centauri au début, le premier morceau.
Oui, l'instrumental. Je trouve que les instrumentaux sont bien.
Alpha Centauri, je le passe en boucle vraiment. Je trouve ça un instrumental assez génial. Et il ne parle pas dessus, ce qui ne gâche rien.
Mais oui, c'est ça.
Mais au-delà de ça, il y a vraiment des chansons. Et au début, t'as un réflexe, tu te dis: ah, c'est crispant. Et si t'écoutes, si tu te laisses un petit peu aller, tu te dis: mais en fait, finalement, c'est vrai que c'est en français et qu'on a tous un peu tendance à dire, bon, en français, c'est toujours plus difficile à, quand c'est de la pop un peu comme ça, c'est toujours plus difficile à accepter, à digérer et tout. Mais si on, finalement, non, il a le droit de faire de la chanson française et de la pop française. Non, c'est vrai, quelque part. Et donc, et de la faire bien. Et voilà. Donc, à certains moments, ça marche. Et à d'autres, bon, c'est plus raté, mais ça ne manque pas ni d'ambition, ni de, je trouve, d'intérêt au niveau.
Alors, on a un peu les qualités, les défauts d'un album concept. C'est souvent ça.
Oui,
c'est
exactement.
Et qui n'apporte pas grand-chose non plus, hein, parce qu'on est quand même dans un truc très rétro-futuriste et qui pue vraiment les années 70.
Oui, oui, complètement.
Toute cette variété française comme ça, un peu...
Comme disait Myriam, Souchon aussi.
Il y a du Souchon. T'entends vraiment Souchon parfois à certains moments.
Dans son phrasé, oui.
Dans le phrasé, oui, complètement. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est un mauvais album? Moi, je pense pas. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de vraiment intéressant, et voilà.
Bon. Un mauvais album, certainement pas. C'est même très bien produit, mais c'est épidermiquement assez insupportable à mon oreille, quoi.
Mais c'est comme quand on avait chroniqué Fauve ici, par exemple. Typiquement, Fauve, il y avait l'une ou l'autre chanson, de mon point de vue, qui était vraiment intéressante, interpellante, touchante même sur l'album, et le reste qui était absolument crispant, agaçant et insupportable.
Moi, je trouvais pas.
Et c'est un peu, mais voilà, mais moi c'est l'impression que ça m'a donné. Et ben, et c'est quelque part pareil. S'il y a des morceaux qui sont crispants et d'autres qui sont vachement réussis, enfin, je trouve. Mais je suis pas un spécialiste, je tiens à le préciser. Le spécialiste est devant moi, me regarde avec un œil méfiant et accusateur.
Mais d'ailleurs, Laurent Fauve, on aurait pu en parler, hein. C'était un choix finalement, parce qu'on en avait parlé l'année dernière dans ce même podcast. Okay. Mais toi, tu as chroniqué cet album.
Pas du tout.
C'est pas toi, c'est Philippe Cornet, c'est vrai, c'est vrai. Cornet. Mais tu l'as écouté, non? Tu ne peux rien
dire. Je l'ai vaguement écouté, oui. Et mais je suis plutôt dans le camp de ceux qui trouvent ça irritant.
Ah, d'accord.
Voilà, personne n'est parfait.
Bon, ok, on ne va pas s'entendre. Bon, bah alors moi, je mets 3 sur 10 hein, pour cet album, Bambi Galaxy, et toi?
Et par exemple, il se revendique souvent... Oui, il cite souvent comme influence Alain Goraguer pour la musique, qui était celui qui a fait la musique du film d'animation années 70, La Planète Sauvage.
Qui a fait
Sauvage.
Le Yuki.
Non, mais qui
a fait Richard Gottener. Pardon.
Mais pas loin, parce que ce garçon a fait par exemple autant les arrangements de Gainsbourg et Jean Ferrat que le générique de Gym Tonic. Ah, et de plusieurs pornos, par exemple P comme pénétration, la musique c'est...
Je ne l'ai pas vu, mais tu m'as fait faire la cassette.
Voilà. La VHS.
Et donc, peut-être que Bambi Galaxy finalement est entre les deux. J'ai entre quelque chose d'assez ambitieux et quelque chose de volontiers farce et trivial, et que c'est peut-être ça la qualité de ce disque auquel je mets donc un 7. Myriam.
Merci Laurent. Et l'autre Laurent?
Moi je coupe la poire en deux, je mets un 5.
D'accord.
Et moi je vais mettre 7.
Eh bien c'est gentil de ta part.
Pokisto!
Stop.
Counterintelligence is the place you want to be right now. We're up against the most sophisticated enemy in the world.
You're my wife.
Is that right?
Super secret spies living next door. They look like us. They speak better English than we do. They're not allowed to say a single word in Russian once they get here.
And you make any noise, I will kill you.
Hi. President Reagan is outraged that the KGB thinks it can kidnap someone with impunity on American soil.
Our war is not so cold anymore, Elizabeth.
It's probably a coincidence.
Or they're onto us.
And this is what? We take those risks every day, Philip. That's what we do.
Alors, La série dont j'avais envie qu'on parle aujourd'hui, c'est The Americans. Sa première saison a été diffusée cet automne sur BTV. Elle vient tout juste de sortir en DVD en Belgique. Je ne sais pas si on a plus de précisions là-dessus.
Apparemment, il faudra attendre encore un petit peu. On parle du mois d'août.
On parle du mois d'août.
Encore 64 fois dormir.
Non, mais écoutez, moi, j'avais lu sur le site d'une grande chaîne distributrice de ce genre de choses que ça sortait le 5 février. Donc voilà.
Sur les mystères d'Internet.
Bon, mais de toute façon, tout ceci se trouve en téléchargement légal, payant et bien encadré sur Internet. Hein. Voilà, sa deuxième fournée sera lancée fin du mois aux États-Unis d'Amérique sur la chaîne FX. Donc c'est quand même un peu d'actualité. The Americans se passe en pleine guerre froide et met en scène un couple d'Américains de la classe moyenne, apparemment sans histoire, sauf que non, pas du tout. Ce sont des espions, ce sont des Russes du KGB qui ont consenti à un mariage arrangé et qui ont été formés pour faire des Américains plus vrais que nature. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils sont là, même leurs enfants ne se doutent de rien quand même. Et tout ça va commencer à se compliquer quand un agent du FBI élira domicile juste à côté de chez eux et qu'ils seront forcément tiraillés entre leur loyauté envers leur pays d'origine et l'envie de s'assimiler pour avoir la paix, pour préserver leur famille. Guy, c'est toi qui m'avais parlé de cette série déjà il y a un petit bout de temps.
Je suis à la pointe, moi, tu sais.
Voilà. Tu m'en avais dit énormément de bien. Alors, je sais pas si l'attente était... c'est les défauts de l'attente, mais moi, j'ai été un petit peu déçue malgré le pitch assez alléchant. J'ai là aussi mis un peu de temps à comprendre à quel degré je devais prendre la série parce que je trouvais qu'elle sonnait, elle sentait aussi un petit peu la parodie quelque part. Oula, vous me regardez d'un air... Bref. Et en fait, c'est au premier degré qu'il faut la prendre. Raconte-moi, Guy, ce qui t'a convaincu dans cette série.
C'est une histoire, c'est tiré de faits réels, based on true story.
J'ignorais de le savoir.
Sauf que, en réalité, les true stories en question, ça passe 20 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est un truc tout à fait contemporain. C'est une histoire qui a lieu dans les années 2000, effectivement, où on a découvert un paquet d'agents d'espions russes qui étaient infiltrés aux États-Unis. Donc, Joe Weisberg, qui est le showrunner de la série, est un ancien membre de la CIA, a déplacé assez intelligemment la série du côté des années 80 pour justement en accentuer les enjeux narratifs, parce que forcément, qui dit années 80, dit Ronald Reagan et toute cette période-là où il y a une espèce de durcissement des rapports entre les États-Unis et l'URSS de l'époque. Alors, j'en avais dit du bien, oui, moi je suis... aussi un petit peu partagé, parce qu'il n'y a pas que des qualités dans cette série, il y a effectivement aussi des défauts. Il y a un petit peu ce côté faux nez, fausse barbe, moumoute,
oui,
machin,
qui est parti.
Quand eux se déguisent, enfin lui en l'occurrence, Philip Jennings, qui est le héros interprété par Matthew Rhys, se déguise régulièrement pour ces espèces d'actions, opérations exactement. Et voilà, il est toujours un petit peu grimé, comme ça, sa femme aussi. Enfin, il y a un petit côté un peu fait, comme ça, un peu film justement,
un peu
des années 70.
Ouais.
Films un peu cheap, film des années 70 et tout, qu'on retrouve là, qui n'est pas toujours bien foutu. Après ça, ça reste quand même assez solide dans l'écriture et dans les enjeux finalement, parce que il y a quand même une tension malgré tout avec ce flic du FBI qui est justement dans la lutte contre les espions qui s'installent juste à côté de chez eux, et donc forcément ça met des tensions. Et au fur et à mesure de la série et de la saison, il y a de plus en plus d'intérêt à la regarder, et ça, moi je trouve que ça se termine de manière assez intéressante.
J'ai pas poussé jusqu'à regarder toute la saison, je dois bien l'avouer.
T'as regardé combien d'épisodes plus ou moins?
Regardez 4.
Voilà, mais c'est forcément, Vincent, si je ne te jette pas la pierre, forcément, c'est sûr que par la suite, ça te prend de la consistance. Et moi aussi, au début, je trouvais ça pas mal, sans plus. Et puis, c'est sur la longueur que ça m'a vraiment intéressé. Même si, une fois encore, ce n'est pas la série de la décennie, loin de là.
L'originalité principale, c'est quand même de placer les acteurs principaux du côté de l'ennemi. Et de montrer un peu le point de vue russe avec un sens de l'empathie qui finit par gagner quand même le téléspectateur.
Oui, complètement.
Ce qui, pour un public américain où apparemment la série fonctionne bien, n'est pas banal, parce que pour arriver à rendre des soviétiques
sympathiques... C'est pas trop manichéen.
Non, tout le monde est quand même plus ou moins... a des bons et des mauvais côtés, donc c'est assez partagé. Et le point de vue vraiment vu du côté soviétique, ça c'est vraiment l'originalité, je trouve, de la série, quoi.
Même si effectivement ça pose parfois des questions de crédibilité aussi.
Oui, ne fût-ce que sur les accents.
Les accents et tout ça, c'est vrai que.
Et les flashbacks dans.
Mais bon, encore une fois, c'est tiré de faits réels, donc quelque part, l'un dans l'autre, voilà. Faut aussi dire quand même que ça se passe sur FX, qui est une chaîne américaine, la chaîne de la testostérone par excellence.
C'est la chaîne de Demegis aussi, FX, non ?
Demegis, ouais. Et dont Joe Weisberg, le showrunner de The Americans, a écrit aussi un épisode.
Oh, mais tu sais tout.
Ouais, un puits de science.
Tu devrais écrire sur les séries dans le magazine, non ? Non, mais c'est.
Et là. Je dis merci Wikipédia.
Et vous y croyez à ce fait que justement il y a une contagion de la rivalité américain-soviétique qui vient gagner le couple. Mais moi j'avais un peu du mal à croire que le couple commence à se poser des questions, lui en particulier, par rapport à son
engagement.
À son engagement et à.
Mais alors, ça fait partie des artifices de scénario, je pense.
Oui, mais je trouvais ça un peu faible et un petit peu du mal à y croire complètement comme l'intrigue. Enfin voilà, c'est un petit peu le défaut, je trouve, de cette série. C'est que c'est pas mal, il y a des idées, tout ça, mais chaque fois il manque un petit quelque chose pour être complètement dedans,
ouais.
Et complètement accroché au personnage, à l'intrigue.
Pas
etc.
En désaccord avec toi.
Les personnages me sont relativement antipathiques aussi. Enfin, je sais que c'est pas une condition sine qua non pour accrocher à une série, mais là, surtout là.
Oui, l'empathie, on trouve pas vraiment une porte d'entrée pour l'empathie.
Oui, j'ai pas réussi encore à trouver le grip sur lequel m'accrocher au bout de 4 épisodes, mais le problème c'est que comme ça m'a pas fondamentalement intéressé, je vais pas vraiment poursuivre. Mais Laurent Obrex, qui n'a pas encore tu ne l'as pas regardé.
Qui n'a maudit. Si, j'ai quasi tout regardé. Il
reste
2 épisodes.
Ah bah alors, exprime-toi.
Et moi je pense que c'est au contraire plutôt crédible le fait qu'après une quinzaine d'années sur place, il y en ait un des deux qui commence peut-être à se poser des questions.
Ouais.
Après tout, leurs enfants, ils sont américains, donc ils voient leurs enfants aussi
grandir comme ça. Tu te demandes pourquoi ça arrive si tard, enfin quelque part.
C'est vrai que la série commence à se.
Oui, mais c'est ça. Voilà, c'est un peu artificiel, quoi.
Mais je trouve que il y a un côté très art. Le couple, par exemple, est très étrange. Mm-hmm. Donc le couple d'agents du KGB, le casting est très bizarre d'avoir Kerry Russell d'un côté et Matthew Rhys de l'autre. Enfin, ils vont pas très bien ensemble, non. Mais ça correspond bien aussi à l'histoire finalement.
Bah, ils sont pas, c'est pas un vrai couple. Dans
voilà,
le...
c'est ça.
Ils sont pas
deux agents.
Est-ce qu'ils sont amoureux, est-ce qu'ils sont pas amoureux? Moi,
là, c'est tout l'enjeu de la saison en fait.
Parce que finalement, c'est plus qu'une série d'espionnage, c'est une thérapie de couple.
Absolument.
Entre les deux agents du KGB, entre il y a plusieurs comme ça personnages autour qui l'entourent, mais aussi entre un peu les deux puissances, quoi, une espèce de.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est beau ça.
Wow,
c'est
très
historique.
Wow. C'est là que je trouve que, par exemple, 6e épisode, c'est là que ça fonctionne le mieux, où en effet il y a une espèce de où les deux niveaux s'entremêlent le mieux, le niveau intime du couple et le niveau un peu géopolitique. Et là, il y a de nouveau quelque chose d'assez saisissant et fascinant.
Et c'est là qu'on voit que tu as vu la série il y a pas longtemps et que moi je l'ai vu il y a un an.
Je suis encore bon.
Non, c'est beau ce que tu dis.
Donc voilà. Et puis tout le charme, moi les postiches un peu mal foutues comme ça, je trouve ça assez. Ça participe du charme un peu vintage, années 80. Ils doivent aller dans des cabines téléphoniques. Enfin, il n'y a pas encore de GSM. Ils roulent en grosse bagnole. Enfin.
Mais t'as un peu l'impression, par contre, d'assister à un film que t'aurais pu voir il y a 15-20 ans ou 30
ouais,
ans, quoi.
Ouais, ouais,
ça. Mais,
ouais.
Mais en revanche, ouais, ça fait partie aussi, comme tu dis, c'est un peu ambivalent. Ça fait partie des qualités, comme ça peut faire partie des défauts en fonction du degré de lecture, quoi.
Tout à fait.
C'est beau ce que t'as dit sur la métaphore du couple et de l'intime.
Ouais.
Non,
ouais,
je.
Tu es le producteur officiel de slogan de cette émission.
À votre service.
Non, mais tu sais quoi, t'étais là comme ça devant ta feuille en disant genre j'attends, je dis rien et tout. Prépare ma cartouche et alors, quand il a sorti, là, c'était vraiment. Mais...
Wow. Comment tu nous as mouché. Bon, moi j'ai rien de plus à dire là-dessus, donc je vais mettre une cotation 6 sur 10 pour ma part. Et toi, Laurent ?
Une 7.
Et toi, Laurent ?
Moi, 6 aussi.
Et toi, Guy ?
Moi, bon 7, ouais.
Et on parlait donc de The Americans, qui a été diffusé sur FX et dont la seconde saison commence tout bientôt aux États-Unis. En finir avec Eddie Bellegueule, c'est le livre dont on parle en ce moment, c'est le roman le plus vendu en France aujourd'hui, et c'est l'œuvre autobiographique d'un tout jeune homme, Édouard Louis, je pense qu'il a 21 ans. 21 ans, c'est ça. Et raconte sa vie dans le Nord, en Picardie, dans une famille groseille digne des plus édifiants numéros de striptease, à se faire moquer et violenter par sa famille, à se faire frapper, cracher dessus par ses camarades de classe, parce qu'en fait, Eddie est gay, efféminé, raffiné, et qui ne correspond pas aux standards locaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Son histoire est tellement terrible, tellement extrême, qu'on pourrait croire qu'Edouard Louis a tout inventé. On a quand même peine à croire à une telle accumulation de tares dans sa famille. Mais bon, il faut lui laisser le bénéfice du doute. Et quand bien même, il est écrit roman sur la couverture. Donc voilà, il ne nous doit rien, il ne nous doit pas la vérité. Et on doit de toute façon lui reconnaître un vrai talent d'écriture où il fait contraster ses mots à lui, bien propres, bien mis, avec ceux toujours laids, toujours de travers, de guingois, des gens qui s'adressent à lui. Laurent, le chef, tu vas rencontrer, et il va même faire la couverture de notre noble et vénérable magazine, c'est Edouard Louis.
Est-ce que, 21.
Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de son bouquin?
Ouais, j'ai trouvé ça assez bluffant, hein. Je trouve que c'est un témoignage sidérant d'un milieu social qui est finalement peu croqué par la littérature, un peu délaissé. C'est à la fois un portrait de la fracture sociale et surtout de la fracture culturelle.
Et c'est la misère culturelle, surtout.
Voilà, donc c'est avec tous les clichés qu'on peut imaginer. Mais ce que je trouve surtout intéressant dans son écriture, c'est cette capacité à faire passer le message avec une simplicité. Il a une écriture neutre qui devient cristalline et transparente, finalement, tellement elle s'efface devant le propos. Et il arrive à faire passer des messages fulgurants à travers ça. Et donc, on cite souvent Annie Ernaux. Pour ma part, ça m'a rappelé Hervé Guibert, qui était un auteur culte dans les années 80, début des années 90, qui pratiquait
tout
beaucoup
l'autofiction.
Tout le monde
acquiesce autour de la table. Non, moi j'ai pas lu.
Et qui racontait en fait à l'époque sa maladie, puisqu'il était atteint du sida. Et lui aussi était influencé par Foucault, Michel Foucault, que notre ami Édouard Louis cite surtout. Il est connu sous ses citations de Bourdieu, parce qu'il a écrit un bouquin collectif sur Bourdieu. Mais donc c'est ce double rapport entre une étude sociologique qui s'emballe d'une œuvre de fiction, et donc il dépeint un paysage social à travers la fiction, mais en disant énormément de vérités qu'on pourrait reprendre à la lettre pour un travail de sociologie. Et je trouve ça, c'est vraiment intéressant. Il arrive à le faire avec une aisance et une facilité
Et ce qui est relativement inédit, c'est qu'il n'essaie pas d'esthétiser la misère. Alors la misère est quand même très esthétisée actuellement, et là il nous l'a fait parvenir très très laide.
Mais c'est un parti pris, et c'est vrai que Annie Ernaux est un peu la papesse de ce genre-là. C'est de ne pas du tout partir, de ne pas filer la métaphore, d'éviter tout ce qui pourrait boursoufler le style, et du coup rendre la vérité un peu suspecte ou un peu grossie. Lui se contente, parce que la réalité est déjà tellement dévastatrice, il se contente de décrire les choses à un niveau infra que ça éclate et qu'on en a déjà suffisamment, une espèce de concentré de réalité qui éclate à la figure. Et voilà, avec beaucoup de maestrade, de maturité, puisque comme tu l'as dit, il est tout jeune, il est encore aux études, il est à Normale Sup en sociologie et philosophie. Donc c'est une espèce de livre ovni comme ça qui débarque de ce jeune auteur qui est plutôt prometteur.
Ouais, Guy, tu l'as lu?
Oui, complètement. Et pareil.
Ah d'accord. Bon, Laurent, toi?
Oui, je l'ai lu, mais je suis beaucoup plus mal à l'aise. Je trouve que on parle de la transparence de l'écriture, d'un truc. Moi, j'y vois surtout une écriture très sociologique et parfois d'une manière très lourde, quoi. Il appuie parfois. J'ai parfois l'impression de lire du Bourdieu, quoi. Il y a deux, trois passages comme ça où. Donc, on est plus en. Quasi dans un truc sociologique, même la manière dont il fait parler.
Oui, mais c'est pas dans l'analyse conceptuelle, hein, parce que tu pourrais faire croire qu'on est dans ça reste vraiment les faits, c'est un récit, voilà, un témoignage.
Ouais, mais il y a deux, trois moments comme ça où il appuie vraiment, on se demande pourquoi il a besoin d'aller jusqu'à ce point-là dans une espèce de dissertation sociologique. La manière dont il fait parler aussi sa famille, les habitants du village. en faisant comme s'il avait dû traduire un peu, parce qu'aussi et en même temps
il avait enregistré sa mère et sa grand-mère, ouais. Et il voulait justement respecter leurs paroles parce que c'était celle dont il était le plus proche, et il a pas pu le faire parce que c'était incompréhensible.
Oui, c'est ça,
il a travaillé de traduction, mais c'est pour ça que c'est de la fiction. Et
mais ce que je lis là en italique, parce que toutes les citations des gens qu'il cite, toutes ces citations sont en italique, j'ai l'impression d'avoir entendu ça 100 fois.
Ah oui.
Bah oui, sur Facebook ou sur. Je veux dire, c'est vrai qu'on parle de misère culturelle.
Pourquoi il n'y a pas de travail littéraire là-dessus ? Pourquoi sur ces citations, justement, il doit les proposer et les montrer comme
parce
si
que c'est
c'était.
C'est une fracture, comme Laurent en parlait, c'est ça l'idée, c'est l'idée de fracture entre ce que lui est devenu.
On n'est pas dans un bouquin de sociologie, donc il n'a pas besoin d'essayer de faire passer ça comme si c'était absolument authentique. Il a un travail de littérature à faire. Ouais,
mais ça,
et donc,
franchement,
mais c'est ça le travail de littérature.
Là, on est dans le travail sociologique qui consiste en effet à retranscrire, à mettre sur papier des propos pour qu'on arrive à capter exactement la manière dont. Mais c'est pas ça,
c'est
un travail littéraire,
c'est
pas ça un travail de roman et de
je suis tellement pas d'accord avec toi.
C'est logique que quand un sociologue retranscrit ses entretiens, il ne les retranscrit pas mot à mot.
Mais ici non plus, il les marie avec son texte à lui, où ça fait apparaître justement la différence,
ouais,
de style, ce que lui, ce à quoi
il
aspire.
Moments,
voilà,
ce
que lui est devenu.
Il y a même des moments où il se sent obligé de dire, ah oui, ça, j'écris, en fait, j'interprète évidemment ce que mon cousin est en train de faire, est en train de penser. Pourquoi il a besoin finalement de détails, c'est son boulot d'auteur.
Ça donne une sincérité
d'auteur.
Quelque part à ça, ça donne une sincérité à la démarche.
C'est son boulot d'auteur, donc je ne vois pas pourquoi il doit expliquer et que là, il est en train d'écrire. Oui. Tu écris un roman, donc forcément, tu es dans cette posture-là. Tu n'es pas sociologue.
Ouais,
mais il assume pas. Il est dans l'autofiction. Il le dit dès le départ. Il parle. C'est son histoire. C'est son enfance.
Mais alors pourquoi il passe comme ça dans une espèce. Il fait tout passer dans une espèce de tamis sociologique.
Moi, je trouve que le tamis sociologique. Moi, je trouve qu'il est pas du tout asphyxiant.
Non, pas du tout.
Je trouve que ça reste justement très léger, très lisible à différents degrés.
Laurent Degaine.
C'est, voilà, il n'y a pas tout cet aspect conceptuel qui viendrait un peu alourdir la patte. Je trouve que ça reste complètement.
Le seul problème qu'on a. Je trouve dans le bouquin, moi j'aime beaucoup le style, je trouve d'une simplicité, d'une fluidité redoutable. Le seul souci que j'ai, c'est au même titre qu'on avait vu 12 Years of a Slave. Où tout au long du film on avait un sentiment de malaise parce que c'était affreux ce qui lui arrivait. Ici c'est asphyxiant quelque part de se dire il lui arrive que des trucs horribles en fait, hein, et c'est très misérabiliste quelque part finalement.
C'est peut-être le seul
reproche que je pourrais lui faire, c'est de manquer parfois un peu d'une petite respiration, soit un peu de recul, un peu d'humour, mais on sent qu'il est vraiment là, il a besoin de il a un gros sur la patate,
mais
il a besoin de sortir.
Je trouve que voilà, parce que tu parlais d'absence de travail d'auteur.
Je dis pas que non,
mais
je trouve que il y a souvent comme ça des relents d'analyse sociologique.
Oui, mais tu as quand même une patte émotionnelle,
enfin, complètement.
Il y a quand même beaucoup d'émotions,
oui,
qui transparaissent. Or
fait,
ça le sociologue, il est pas censé
super,
mettre ses émotions dans le livre. Ici on les ressent, que ce soit dans le contraste avec les phrases qu'il cite ou que soit dans ses appréciation et sa vision de ce qui lui arrive, il met énormément d'émotions, mais il le fait passer de manière subtile.
C'est très subtil. Ouais.
Voilà, et je trouve pas ça du coup, je trouve que c'est très individualisé, c'est un regard sur ce qui lui arrive, sur son regard à lui d'auteur et qui a vécu ça, mais avec un filtre quand même, le filtre de la fiction qui est quand même très présent. Quoi.
Il écrit par exemple... page 69.
Mm-hmm. Oh.
Il parle de sa mère, et donc il écrit « Elle ne comprenait pas que sa trajectoire, ce qu'elle appelait ses erreurs, entrait au contraire dans un ensemble de mécanismes parfaitement logiques, presque réglés d'avance, implacables. Enfin bref, une espèce de dire, voilà, il applique comme ça sa grille de lecture sociologique déterministe, bourdieusienne, marxiste, ce que vous
mais
voulez.
Mais qu'est-ce qui te dérange fondamentalement là-dedans ? Ça fait partie de son
qu'est-ce
choix.
Qu'est-ce que tu trouves faux, vu le cheminement
oui,
dans lequel elle est ?
Je lis un roman, ce qu'il est en partie, mais qui, à un moment, est alourdi par une espèce de lecture sociologique. Et mon deuxième point, c'est que... Et il le dit lui-même, c'est une dimension qu'il nie pas du tout dans cette histoire. Et par la suite, ce qui est dérangeant, c'est à nouveau dans ce genre de bouquins et de qui arrive à point, hein, dans une, quand on voit un peu le débat en France, hyper crispé, finalement, il arrive avec une lecture du comment dire, des gens, des opprimés, en utilisant des outils des oppresseurs, quoi. En utilisant un bouquin, un langage assez cultivé, enfin, et donc il parle comme ça d'un milieu qu'il voudrait essayer de faire comprendre, qu'il voudrait en même temps essayer
pas le faire comprendre, il veut le décrire parce qu'il en a tellement
mais
souffert,
en utilisant à nouveau les outils
que...
c'est pas la compréhension du rap, quoi. Ou du... non mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse,
c'est à ce moment-là en effet qu'il y a une contradiction qui moi à un moment me met mal à l'aise. Par exemple, vous avez peut-être lu La Merditude des choses, qui se passe exactement dans le même milieu.
Sauf que c'est vraiment le milieu de Baraki. Tendresse.
Ouais, tendresse, mais en même temps, c'est pas du tout un regard.
C'est pas reluisant.
Oui, mais c'est pas du tout un regard non plus, comment dire, tendre ou complètement niais et rose sur cette réalité-là. Il y a des trucs très durs, des passages. Quand même pas très folichon, mais il y a une distance. Et là, il y a une vraie.
Il y a une distance
vrai
qui est peut-être due au fait que le gars a 20 ans. Le gars, il y a 10 ans, il se faisait cracher dans la gueule quand il était à la cour de l'école et il devait lécher des molars et ça a l'air horrible. C'est immonde.
C'est ce qu'il dit au début de son bouquin, la souffrance est totalitaire. Et là, donc, on ne voit plus que ça.
Mais oui, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de distance. Il n'a pas encore l'âge pour faire la.
Je veux pas le savoir quand
mais
je lis un bouquin.
Je trouve que tu manques d'indulgence par rapport à ce garçon.
Non, non, non. Parce que. Moi, j'ai plutôt apprécié ce bouquin. Je trouve qu'il y a des scènes vraiment, vraiment terribles. Et il y a en effet une écriture qui parfois est complètement bluffante parce qu'avec un minimum d'effet, il arrive à faire ressentir un maximum de choses. Je dis juste qu'à un moment, il y a l'une ou l'autre posture qui me dérange, le côté regard sociologique sur le truc qui est à la fois très proche parce qu'il l'a vécu, mais en même temps très froid. Il y a une espèce de truc très distancié et quoi qu'il veuille, assez jugeant.
Mais c'est un livre sur l'émancipation. C'est un livre d'émancipation. Oui, c'est un livre d'arriver à briser ses chaînes, d'arriver à se sortir d'un milieu. Après, forcément, il regarde en arrière parce que son milieu, c'est celui duquel il vient. Mais il doit quelque part décrire ce milieu-là. Il doit le faire ressentir aux gens pour montrer à quel point sa transformation.
Il s'épargne pas, quoi. Je veux dire, même à la fin, quand il parle de la fuite, il dit bien qu'il n'a pas fui dans un élan de liberté et tout ça, que c'était simplement parce que c'était la seule solution envisageable et qu'il l'a fait plutôt à reculons. Donc, je trouve qu'il ne se ménage pas non plus en se mettant en scène dans ce milieu-là. Il décrit ses souffrances, mais il décrit aussi un homme qui n'a pas su. Entre guillemets, un jeune homme qui n'a pas su s'élever, qui n'a pas su prendre son autonomie, etc. Donc, il y a quand même une dimension très subjective qui est très présente, alors qui, en effet, vient recouvrir un fond de sociologie. Mais comme tu le trouves, j'ai l'impression, un peu dans tout bon roman qui a une visée... Qui
prend un peu de recul.
Voilà, qui essaie de décrire la réalité.
Oui, sauf que c'est ça qu'à un moment, je peux reprocher au bouquin, c'est qu'il y a... Il n'y a pas ce manque de recul ou cette romanisation du truc. C'est malgré tout un roman. Et à nouveau, je reviens avec La Merditude des choses, mais où là, il y avait une espèce de distanciation, alors qu'il passe par l'ironie et l'humour.
Enfin, je veux dire, c'est pas du tout. Là, même, tu ne peux pas comparer quand même les deux. Le
regard posé sur les deux, sur les frères dans La Merditude des choses n'est pas le même que sur lui.
Pourtant, c'est la même réalité. Au départ, c'est exactement la même chose, jusqu'au dans la fascination pour la culture américaine. Il y a plein de parallèles, de rapports,
c'est vrai,
de trucs.
Parallèles.
Oui, mais la souffrance des personnages dans La Merditude des choses n'est quand même pas au niveau de ce garçon.
C'est une fratrie dans La Merditude des choses. C'est une fratrie qui est soudée, qui est un peu.
Qui s'amuse aussi souvent.
Qui s'amuse souvent.
Le gamin n'a pas l'air forcément de s'amuser. Le gamin termine aussi écrivain comme Édouard Louis en s'arrachant aussi de son milieu. En étant aussi envoyé en internat, enfin, il y a énormément de parallèles à faire. Lui aussi, il a dû forcément.
Mais ça, au moins, c'est
une souffrance de s'arracher.
C'est vrai.
C'est déjà ça. Dis, chef, toi qui rencontres Édouard Louis, j'allais dire Laurent Louis, tu sais déjà quelle va être la teneur de cette interview. Qu'est-ce que tu as envie de lui demander? Tu sais déjà un peu
Alors, cette teneur sociologique.
Moi, j'ai un collaborateur ici qui le porte tout à cœur.
C'est quoi ce manuel de sociologie?
En interne, on n'est pas du tout d'accord.
Non, je pense qu'il y a évidemment plein d'aspects, mais il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est notamment la gestion de l'après. Parce qu'on sent qu'il a mis ses tripes sur la table, il a voulu se libérer, et maintenant il doit un petit peu récolter les fruits de ça, mais je pense qu'il s'y attendait pas du tout, ni dans le succès, ni dans le côté phénomène, ni même avec sa famille réelle, puisqu'il oui. était quand même encore un lien avec sa mère en particulier, qui semble l'avoir rejeté maintenant complètement. Et donc, vu son âge, etc., on peut se demander un petit peu qu'est-ce qu'il va faire de tout ça et vers quoi il va se diriger pour la suite, parce qu'il a mis... Il raconte son existence. Est-ce qu'il va continuer dans l'autofiction? Est-ce qu'il va partir sur une voie beaucoup plus libérée, je dirais, de ses chaînes individuelles pour partir vers quelque chose de plus... plus ambitieux au sens romanesque du terme. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et j'ai surtout envie de capter un petit peu le personnage en tant qu'être humain. Mm-hmm. De ce que j'ai pu voir et lire jusqu'ici, c'est quelqu'un d'assez fragile, enfin d'assez sensible. Et voilà, je suis curieux de découvrir un petit peu l'humain derrière le romancier.
Il faudrait faire un pèlerinage dans sa vraie vie d'aujourd'hui, les lieux qu'il fréquente.
Pour... Ben oui, le courrier Picard l'a fait pour nous, apparemment.
Oui, mais ça, c'était sur son passé, surtout. Oui. Oui, avec une superbe photo de cette pauvre femme tombée de l'armoire en lisant voilà. ce bouquin. Alors moi, je vais lui mettre 8 sur 10, parce que je trouve que, en plus, compte tenu de son âge, c'est vraiment très impressionnant. Je suis assez admirative, en fait. Donc,
c'est un peu complexant. Je...
Ah oui, même très. Que... Ouais. Et toi, Guy, tu vas lui mettre combien?
Ouais, je lui mettre pareil, parce que je me suis dit c'est un petit peu comme ça que moi j'aimerais bien pouvoir
oui,
écrire.
Et on a 10 ans de plus.
Oui,
voilà. Et avec encore 10 ans de plus, tu lui mets 9.
Ah bah voilà.
Je mets 6.
Un rabat-joie. Bah bon, en finir avec Eddie Vellegueul d'Edouard Louis, c'est paru chez Seuil. Et on va terminer cette émission avec, comme à chaque fois, un petit détour par nos derniers coups de cœur culturels. Alors, le mien n'est pas tout récent, mais il vient d'obtenir un prix, le prix de l'UPCB, l'Union de la presse cinématographique belge, dont nous faisons, je pense, à peu près tous partie ici autour de la table. C'est le film italien La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. On en avait parlé... Ça fait qu'il se lance une vidéo. C'est YouPorn.
C'est pour mon coup de cœur.
Voilà. La Grande Bellezza qu'on avait parlé, dont on avait parlé dans Focus Store, ça avait été pourtant peu remarqué en Belgique. C'est un tort parce que moi, je trouve que c'est vraiment une splendeur, un film assez inoubliable qui continue à me hanter des mois plus tard. Où, pour rappel, un journaliste romain vieillissant fait le bilan de sa vie dans l'Italie de Berlusconi, très bling-bling, à travers une série de tableaux, de scènes mosaïques magnifiques. C'est un voyage... C'est un cadeau, quelque part, j'ai envie de dire. Et c'est encore à l'affiche à Bruxelles, à l'Actor Studio, dans le centre-ville. Et à noter aussi que La Grande Bellezza est nommée aux Oscars et aux Césars. Je pense, Laurent, que tu l'avais aimé, toi aussi, ce film.
Absolument.
À la grande époque, te souviens-tu ?
Tout à fait, quand j'allais encore au cinéma.
Voilà.
Un grandiose, hein, ce film.
Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Petit coup de cœur de la part de notre chef des pages musique.
Oui, il y a l'album de Angel Olsen, qui est une américaine de une petite 27-28 ans, quelque chose comme ça, qui fait plutôt a priori du folk, un peu country, un peu gothique comme ça, qui peut virer vers le rock. Mm-hmm. Et donc, elle raconte plein de choses un peu tristes, mais en même temps avec une vraie force et avec quelque chose d'assez touchant. Elle a plein de trémolos dans la voix, comme ça. Elle chante un peu comme une vieille italienne des années 60, mais sur des chansons folk et avec des textes assez bien foutus. Là aussi, très très simple, presque sociologique, mais en même temps avec une épaisseur, une matière. Enfin, je trouve ça vraiment assez fort, assez soufflant.
Comment s'appelle-t-elle, rappelle-nous ?
Elle s'appelle Angel Olsen, comme la mère
comme
Olsen.
Peggy,
de...
ouais.
Ou comme les sœurs Olsen, ouais, tout ouais. à fait. Ouais, absolument.
Comme
absolument.
Morten Olsen aussi.
Ouais, tout à fait, un bon centre.
On a plein d'autres gens qui s'appellent Olsen.
Bon, bah Guy, tant que t'as crachoir, c'est à toi.
Alors, moi, puisque j'avais évidemment oublié que...
Comme à chaque fois. Mais c'est bien, ça fait que 2 ans qu'on fait cette émission.
je vais parler
d'un petit lien à YouTube.
Je vais parler de Hedge Fund, qui est une BD Alors curieusement, moi qui suis pas du tout BD, voilà, bah, il s'avère qu'elle m'est passée entre les mains de manière assez curieuse et aléatoire. Et voilà, donc ça s'appelle Hedge Fund, c'est de Patrick Seba, Patrick Enaf et Philippe Seba. Non, c'est Tristan Rouleau, Philippe Seba et Patrick Enaf. Voilà,
on coupera ça au montage. Hein.
On coupera ça au montage. Bref, l'une de ces trois personnes est un gestionnaire d'entreprise, donc qui a fait le scénario et qui s'y connaît pas mal dans la finance et tout. Et donc à l'époque où on a The Wolf of Wall Street qui est sorti et où on parle beaucoup de finance, c'est pas mal, je trouve, d'avoir une BD qui peut quelque part simplifier tout ça et tout en donnant une chouette intrigue. Moi, comme je le dis, je suis pas très BD, mais c'est quelque chose que je conseille assez. Ça sort, donc c'est sorti chez Lombard il y a pas très longtemps et voilà, c'est une trilogie, donc le premier opus vient de sortir en attendant les deux suivants. Voilà.
Et le chef a l'honneur de clôturer le tour de coup de cœur.
Un grand moment toujours en BD puisque c'est la suite, même si l'album en fait est antérieur, mais de Derf Back Derf.
Ah oui,
notre ami Dahmer, qui nous avait ébloui l'année passée avec l'histoire de Jeffrey Dahmer, le tueur en série. Et ici, les éditions ça et là, évidemment, voyant le succès, se sont hâtés de sortir,
succès, hein,
entre autres, évidemment, se sont hâtés de traduire son album précédent, qui était sorti en 2010, et qui s'appelle, et c'est tout un programme, Punk Rock et Mobile Home.
Ah.
Et donc, de nouveau inspiré par son histoire personnelle, il raconte l'histoire d'un personnage ado qui s'appelle Otto et qui se fait appeler le Baron et qui vit dans un petit bled aux États-Unis dans l'Ohio, frappé par la crise et qui devient un peu par le hasard et aussi parce que c'est devenu un chancre urbain, qui devient le haut lieu de la scène punk émergente de l'époque. Et donc dans une ancienne banque désaffectée, il y a un club qui s'installe, qui s'appelle The Bank, et qui va voir défiler tous les grands groupes punk et associés underground, Close No Me, au Clash en particulier. Et donc ce Otto, qui est un personnage singulier, complètement flamboyant, qui cite du Tolkien à tout bout de champ, un côté geek avant la lettre, eh bien va se retrouver en première ligne dans ce club et va faire les 400 coups avec les groupes qui passent là-bas, leur servant de guide, en allant crever les pneus des tourbus des groupes trop pop ou trop hippie qui passent dans le coin. Voilà, et c'est vraiment jubilatoire parce qu'on retrouve le trait et ce côté hyper ironique qu'il y avait dans Dahmer, avec pas mal d'émotions aussi. Et voilà, je le conseille chaudement. C'est toute une génération, toute une époque qui est retransmise ici avec le brio de son noir et blanc très gottliebien.
Donc Derf Back Derf avec
voilà,
Derf Back
donc,
Derf.
Derf Back Derf, ouais. C'est son nom. Et c'est donc Punk Rock et Mobile Home.
Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour cette fois. Il suffit. Lisez-nous maintenant, hein, en attendant notre grand retour dans vos oreilles. Dans Focus, toutes les semaines avec le Vif l'Express. On se réjouit de vous revoir dans deux semaines. À plus, bye bye. Salut les Delorans, salut Guy.
Salut.
Ciao.